Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous débattrons de la candidature d'Alpha Condé à un troisième mandat. Le président guinéen ne l'a pas encore personnellement officialisé, mais son parti a bel et bien annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre. L'opposition, évidemment, est vent debout. Elle dénonce une candidature illégitime, alors que les partisans du président, eux, assurent que la nouvelle constitution adoptée il y a quelques mois, au mois de mars, remet les compteurs à zéro. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette candidature? Craignez-vous des troubles? D'autant que l'opposition appelle à la reprise des manifestations. Vos commentaires, vos analyses, vos témoignages, vous êtes très nombreux à nous appeler, nombreux également sur nos réseaux sociaux. Plus d'un millier de commentaires postés sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de tous les lire, mais ne vous inquiétez pas, je me ferai le porte-parole du plus grand nombre d'entre vous, comme tous les matins. D'abord, vos questions à la rédaction, 20 minutes, pour essayer de vous aider, de vous permettre de mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Yabao, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toutes les auditeurs de RFI.
Merci de nous appeler de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, nous vous écoutons.
Un officier français a été arrêté et écroué car il est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels à la Russie. Mm-hmm. Que sait-on de cet officier et des informations qu'il a pu transmettre?
Ah.
Que risque-t-il?
Que risque-t-il? C'est vrai que c'est une affaire digne d'un film d'espionnage. Franck Alexandre, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous suivez pour RFI le dossier Défense. Que sait-on de ce militaire français qui est soupçonné donc d'espionnage au profit de la Russie?
Pour dire vrai, Juan, on ne sait pas grand-chose à cette heure de cet homme. Mais certains éléments, cependant, permettent de brosser le profil de ce militaire. C'est donc un officier supérieur, élevé au grade de lieutenant-colonel. On sait également que sa famille a de lointaines origines russes et qu'il parle russe. Lui-même, ce lieutenant-colonel était en poste à l'OTAN, affecté à Naples, le principal site de l'organisation atlantique en Italie, une base qui a pour mission de superviser l'ensemble des opérations de l'Alliance en Méditerranée. C'est donc un endroit plutôt stratégique. Ce type de poste au sein de l'OTAN nécessite donc une habilitation particulière dont le périmètre varie bien sûr en fonction des sujets traités. On ne connaît pas le domaine d'activité qui était celui de cet officier. Et à cette heure, on ne sait rien non plus des présumées activités d'espionnage, ni leur durée. La ministre des Armées, Florence Parly, a opposé le respect du secret de l'instruction pour ne pas en dire davantage. Factuellement, ce père de 5 enfants a été arrêté par le contre-espionnage. La DGSI, il y a une quinzaine de jours en France où il séjournait pour ses vacances, le ministère des Armées ayant dénoncé ces faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40, celui, vous le savez, qui impose aux agents de l'État d'alerter la justice sur des comportements délictueux. Une instruction a donc été ouverte et c'est désormais à la justice de faire toute la lumière. Ce militaire est depuis en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. Sur le plan pénal, si les faits sont avérés, il risque gros, Juan, puisque pour intelligence avec une puissance étrangère, cet officier français encourt aux assises jusqu'à 15 ans de prison.
À suivre donc. En tout cas, pour l'instant, rien n'a filtré sur les éventuelles informations que cet officier aurait pu transmettre à la Russie. Vous aviez une autre question, Yabao?
Bien sûr. Des affaires similaires ont éclaté ces derniers mois. Comment les services de renseignement luttent contre les taupes?
Ah, des affaires similaires. On en parlait d'ailleurs ici même, courant juillet, lorsque deux anciens agents des services de renseignement extérieur ont été condamnés pour trahison au bénéfice, cette fois-ci, de la Chine. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, Franck Alexandre, que des militaires français sont condamnés pour espionnage. Que peut faire la France ?
Bah écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on appelle les tamponnages, c'est-à-dire tenter de retourner quelqu'un, c'est une pratique courante dans le monde du renseignement. Chacun cherche à trouver des sources d'informations. Ça se fait même entre alliés. Néanmoins, avec la Russie, eh bien, c'est particulier, car l'ex-URSS, c'est l'ennemi de la guerre froide. Hein. Le FSB, héritier du KGB, demeure un service de tout premier plan, à peu près 350 000 hommes, auxquels s'ajoute le GRU, vous savez, le renseignement militaire. Alors historiquement, en plus, le renseignement russe a toujours été très actif sur le sol français, déployant des dizaines de diplomates. On n'est pas dupes. Un grand nombre d'entre eux sont en fait de vrais espions. On suppose que l'Hexagone a même servi ces dernières années de plaque tournante pour l'espionnage russe en Europe.
Mais comment la France peut-elle se protéger justement de ces espions ?
Difficile, en exigeant bien sûr aux agents leur plus totale loyauté. Hein, c'est la pierre angulaire du renseignement. Et pour veiller à ce que cette loyauté ne soit jamais prise en défaut, eh bien, il y a le contre-espionnage. C'est le rôle dévolu en France à la DGSI. La sécurité intérieure, elle est chargée de marquer à la culotte les étrangers au profil douteux. Les agents fragiles aussi, dans l'affaire qui nous intéresse, le contre-espionnage italien ces derniers mois. A possiblement suivi dans la péninsule italienne un agent itinérant du GRU, le renseignement russe. Les services italiens ont peut-être alors repéré des rencontres troublantes entre ce militaire russe et l'officier français et signalé ces faits à leurs homologues français. Toujours est-il que dans le monde feutré du renseignement, Juan, le cas des taupes est généralement réglé en toute discrétion. Cette fois, si le ministère des Armées a pris soin d'alerter la justice sur un éventuel cas d'espionnage, ce n'est pas fortuit. C'est aussi une façon d'envoyer un message clair à certaines puissances étrangères pour dire « ça suffit, le renseignement français ne se laissera pas faire ».
Et message notamment adressé aux Russes, bien évidemment. Yabao, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très parfaitement.
On vous souhaite une bonne journée à Bobo Dioulasso.
Merci bien.
Et merci à Franck Alexandre d'être venu dans ce studio 10h, bientôt 17 à Paris, 33 9 693 693 70. Saïdou, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Vous êtes à Conakry en Guinée. Vous avez des questions concernant la visite d'Emmanuel Macron au Liban.
Oui. Juan, depuis l'explosion dans le port de Beyrouth, Emmanuel Macron s'est rendu à deux reprises au Liban pour attirer le pays de son soutien et demander des changements politiques. Alors, ma première question est de savoir pourquoi le président français s'investit-il autant dans la gestion de la situation au Liban et comment les autorités libanaises réagissent-elles à cela?
Et c'est vrai que le 6 août, le président Macron avait promis de retourner rapidement à Beyrouth. C'est désormais chose faite. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour Juan, bonjour Saïdou, bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI à Beyrouth, deux visites en un mois. Emmanuel Macron a d'ailleurs promis de revenir en décembre. Comment expliquer cet intérêt d'Emmanuel Macron pour le Liban ?
Alors, ça s'inscrit dans une continuité, hein, une relation ancienne entre les deux pays. Il y a l'histoire du mandat français sur la région jusqu'à l'indépendance du Liban en 1943. Il y a la francophonie au Liban aussi. Et puis, ces liens forts ont duré. On peut rappeler, par exemple, qu'un certain nombre de grandes conférences ces dernières années, déjà à l'époque pour aider économiquement le Liban, ces conférences se sont tenues en France. On est donc là dans une région, un pays où la France peut peser. Entend peser ce qu'on appelle une zone d'influence dans ce Moyen-Orient et dans cette Méditerranée orientale où la France a des alliés et des intérêts. On peut noter aussi que les autres puissances, hein, par exemple États-Unis et Russie, sont peu présents, voire absents depuis que la crise libanaise est devenue très aiguë. Il y a donc ce contexte et il y a aussi un moment particulier, le Liban s'enfonce dans la crise et depuis octobre dernier, une grande partie de la population demande du changement et quelque part il y a un alignement entre ce que les alliés du Liban, à commencer par la France, demandent depuis des années au pays, réformes, changements, et ce que demande aussi la rue libanaise. Il y a donc une fenêtre dans laquelle peut prendre forme l'initiative française emmenée par Emmanuel Macron.
Alors, à tort ou à raison, vu de l'extérieur, en tout cas Nicolas Falaise, ça peut ressembler tout de même à une sorte de mise sous tutelle du pays. D'où la question pertinente tout de même de notre auditeur, Saïdou, comment les autorités, et j'élargis la question, comment la classe politique libanaise en son ensemble réagit-elle justement ?
Alors, officiellement, en surface, on n'a pas entendu d'opposition, hein, même du Hezbollah, le puissant parti chiite qui possède une branche armée qui est inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes et qui est très proche de l'Iran. Même le Hezbollah a plutôt favorablement accueilli les démarches françaises. Je n'ai pas entendu ici de dirigeants libanais parler d'ingérence pour critiquer l'initiative française. La question, c'est, est-ce que cette attitude, effectivement très balisée, avec un calendrier, une exigence suffira mortelle, cette initiative. Emmanuel Macron a annoncé hier un calendrier, hein, un nouveau gouvernement libanais d'ici 15 jours, un certain nombre de réformes à faire avancer sur l'électricité, le contrôle des capitaux, l'audit de la Banque centrale et un premier horizon, une conférence annoncée à Paris dans la deuxième quinzaine d'octobre. Mais le système politique et confessionnel du Liban, c'est un système de partage du pouvoir et aussi d'un certain nombre de ressources. La question centrale, hein, c'est peut-il ce système se réformer ?
Ouais. Saïdou, vous avez une dernière question.
Oui. Lors de ces déplacements, on a vu certaines personnes remercier le président Macron. La population est-elle vraiment satisfaite de ses venues et de ses promesses ?
Nicolas Falaise, je me souviens, début août, du bain de foule d'Emmanuel Macron dans les rues de Beyrouth. Alors effectivement, accueil chaleureux, réservé au président français par la population. J'ai comme l'impression que c'était moins évident ces deux derniers jours.
Oui, la venue 48 heures après l'explosion du chef d'État d'un pays ami, ça a été apprécié ici, hein, on nous l'a beaucoup redit ces derniers jours. Effectivement, on a aussi entendu, dans le contexte de défiance, hein, d'une bonne partie de la population libanaise vis-à-vis du pouvoir, on a entendu des réactions plus nuancé ces derniers jours. Hier, il y avait une manifestation d'opposants dans le centre-ville de Beyrouth et nous avons entendu des manifestants dire pourquoi Emmanuel Macron vient voir nos dirigeants que nous estimons corrompus, dont nous ne voulons plus, et pourquoi ne vient-il pas nous voir, nous, une partie du peuple libanais qui demande du changement. Et finalement, c'est ça le pari d'Emmanuel Macron. Il a décidé de parler aux dirigeants libanais en essayant de les faire accepter des changements qu'ils ont jusque-là finalement toujours refusé.
Saïdou, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, les réponses sont vraiment satisfaisantes.
Bon, bah,
merci et bonne journée.
Merci à vous, bonne journée à Conakry. Grand merci évidemment à Nicolas Falaise, envoyé spécial de RFI à Beyrouth, et à Nicolas Benita pour les moyens techniques. 10h22, 33 9, 693, 693, 70. On va parler du Japon avec cette annonce surprise. C'était il y a quelques jours, vendredi. Le Premier ministre Shinzo Abe a décidé de démissionner. Évidemment, ça a suscité quelques questions chez certains d'entre vous. Ibrahima, notamment, nous a contacté d'Abidjan, c'est bien ça. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Dans la capitale économique ivoirienne, nous vous écoutons.
Voilà, au pouvoir depuis 2012, Monsieur le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé sa démission pour des raisons médicales. Aucun Premier ministre n'aura duré autant que lui au pouvoir. J'aimerais savoir, les deux questions. Qui sont les successeurs potentiels plutôt ?
Oui.
Et comment dirais-je ? Est-ce que les Japonais sont satisfaits de son passage au pouvoir pendant ces huit dernières années ?
Oui, c'est vrai qu'il est au pouvoir de façon continue depuis décembre 2012 en tant que Premier ministre. Il a également été Premier ministre de 2006 à 2007, mais vous avez raison, jamais un Premier ministre ne sera resté aussi longtemps à diriger un gouvernement. Shinzo Abe a clairement battu un record de longévité politique au Japon. Bonjour Guy Bourg de Lamotte.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques au département d'études japonaises de l'INALCO. Je ne connais pas bien la vie politique japonaise, je l'avoue, mais c'est un pays où pendant très longtemps de mémoire, les chefs de gouvernement restaient peu longtemps, généralement tous les deux ou trois ans, il y avait un changement de premier ministre. Là, Shinzo Abe est resté huit ans en continu. Pour autant, était-il populaire ?
Vous avez tout à fait raison. Oui, il a une très bonne cote de popularité jusqu'à la crise du Covid, en fait. À partir du mois d'avril, on a vu sa popularité chuter. Et là, elle était en dessous de 40%, ce qui n'est pas pour le Japon, mais vous voyez que ça reste encore assez raisonnable.
Mmh. Alors, comment expliquer justement cette popularité, même si elle chutait ces dernières semaines ?
Eh bien, somme toute, il est passé pour un homme assez fort, hein, qui savait ce qu'il avait l'intention de faire pour le Japon. Il est arrivé avec des propositions économiques qui étaient assez vigoureuses en 2012 et qu'il a essayé de mener à bien assez fermement, main dans la main avec la Banque centrale. Et puis pendant un temps, ça a un peu marché. Malheureusement, le contexte international n'a pas été très favorable, donc son bilan économique n'est pas aussi bon qu'il aurait voulu. Il y a eu une faible augmentation des salaires. Il a réussi un temps à sortir le Japon un petit peu de la déflation, mais la population a néanmoins le sentiment de s'appauvrir quand même et d'un accroissement des inégalités sociales.
Oui.
Donc ça, son bilan de ce point de vue-là, il n'a pas réussi à vraiment faire repartir la machine économique japonaise. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il s'est heurté à une situation internationale qui n'était pas très favorable, où il a beau essayer de faire repartir la machine économique, ça a été compliqué. Le yen est apparu comme une valeur refuge, donc il a eu beaucoup de mal à faire baisser sa valeur. Et voilà, les choses n'ont pas été tout à fait aussi faciles que prévu. L'endettement a été accru par sa politique. La dette publique est de 230% du produit intérieur brut maintenant.
D'accord. Donc bilan somme toute mitigé. Qui pour succéder Shinzo Abe? Alors peut-être que la liste des prétendants est longue. On va peut-être pas citer tous ceux qui aimeraient prendre la relève. D'abord, Guibourg de Lamotte, que va-t-il se passer là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Va-t-il y avoir déjà des élections anticipées ou pas du tout?
Alors, on parlait d'élections anticipées en fait, mais maintenant, Monsieur Abe étant parti, il faut que quelqu'un le remplace en fait pour la fin de son mandat à la tête du PLD. Et donc, il est probable que finalement, pour les élections législatives, on attende la fin de la législature, c'est-à-dire 2021, octobre 2021. En principe, il n'y a pas tellement raison maintenant de faire des élections anticipées. Mmh. À partir de janvier, la question pourra se poser si le Premier ministre, disons, qui succède à Monsieur Abe, donc le chef du PLD, n'arrive pas à s'installer au pouvoir, disons que sa légitimité est contestée.
Donc, si je comprends bien, c'est le président du parti au pouvoir, donc du PLD, qui sera automatiquement Premier ministre. Le nouveau président du parti au pouvoir.
Exactement, comme le parti au pouvoir a la majorité dans une législature qui se prolonge, qui se poursuit en fait, qui est de 4 ans et qui va durer jusqu'en octobre 2021 en principe, eh bien le chef de la majorité devient le Premier ministre. Et là, accidentellement, bien ce Premier ministre démissionne, eh bien celui qui remplace, il faut élire un nouveau chef de la majorité qui va remplacer ce Premier ministre. Et effectivement, de fait, on ne soumet pas à nouveau, enfin c'est pas une raison si vous voulez pour abréger la législature en fait. Mais bon. Ça peut, si sa légitimité n'apparaît pas assez forte, si sa cote de popularité n'est pas assez bonne, et bien dans ce cas, on verra des élections. Oui. La question des élections se posera à partir du mois de janvier.
Donc en attendant, les électeurs n'ont pas leur mot à dire. Ibrahima, vous nous demandiez qui pour succéder Shinzo Abe. Vous pouvez nous donner peut-être quelques noms ou quelques profils, Guibourg de Lamotte?
Bien sûr. Alors là, en ce moment, c'est le vice-premier ministre qui assume l'intérim pendant 15 jours, en gros. Donc, Monsieur Asso Talo, qui est ancien ministre des Finances, un vétéran, il a été premier ministre déjà, et c'est pas quelqu'un qui est susceptible de se représenter. En revanche, le candidat qui réunit la majorité des voix, les deux tiers des voix de la diète des parlementaires, donc de la majorité, c'est quelqu'un qui s'appelle Suga, qui est le porte-parole du gouvernement actuellement. Donc, lui, il est en très bonne position, mais se pose la question de savoir comment les élus locaux du Parti libéral-démocrate vont voter, parce que ils ont également il y a un quota en fait de voix qui leur est réservé, et donc eux ils seraient susceptibles de voter plutôt pour quelqu'un qui est Monsieur Ishiba, ancien ministre de la Défense. Mais ceci dit, lui, Monsieur Ishiba n'est pas le plus populaire auprès des parlementaires.
Bon.
Donc vous voyez, ça va se jouer entre ce gars, il y a deux autres candidats, Ishiba et Kishida, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères actuellement. Responsable des affaires politiques du Parti libéral-démocrate, qui est un bon poste également. Mais lui, il sera candidat peut-être pour la suite, vous voyez. Donc, il est dans l'immédiat, c'est M. Suga qui est le plus susceptible donc de succéder à M. Abe.
D'accord, on verra si vos prévisions sont bonnes. Guibourg de Lamotte, Ibrahima, a-t-on répondu à vos questions?
Vraiment, merci Monsieur Van. Je suis très satisfait. J'ai bien compris la réponse.
Bon,
merci
voilà, c'était un peu compliqué quand on connaît pas la vie politique chinoise, mais on apprend des choses. Merci infiniment à Guibourg de Lamotte, merci à Guibourg de Lamotte, maître de conférence en sciences politiques au département d'études japonaises de l'INALCO. Trésor, je tiens à m'excuser personnellement et en direct. Trésor, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous êtes à Kisangani, et je m'excuse car ça fait deux jours de suite que vous êtes là, au standard, que vous attendez pour poser vos questions sur les éventuelles réformes électorales en République démocratique du Congo, et deux jours de suite que nous avons des difficultés techniques à contacter notre correspondant à Kinshasa, patient Ligodi. On a des problèmes de téléphone, donc voilà, je voulais m'excuser. On va essayer de régler ça d'ici la fin de la semaine, d'autant que le sujet ne vous laisse pas indifférent et intéresse d'autres auditeurs, ces réformes électorales qui sont aussi bien souhaitées par le pouvoir que l'opposition, mais ça fait débat sur place, donc trésor. Je vous dis à demain ou après-demain, on fait le maximum, d'accord ?
Ok, pas de problème.
Merci de votre compréhension. On marque une pause, on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Vos nombreuses réactions sur la candidature d'Alpha Condé.